Le magazine des Nations Unies.
La MONUSCO, toujours à la recherche des plus d'inclusivité dans l'application de l'accord de la CINCO du 31 décembre dernier. C'était en tout cas le message de son porte-parole mercredi dernier au lendemain de la publication du gouvernement Tshibala. Les détails dans cette édition. 3,7 millions de déplacés internes. La RDC occupe désormais la première place sur le continent face à la dégradation de la situation humanitaire. OCHA en mission de plaidoyer en Europe. Il existe un besoin urgent de rendre justice aux Congolais victimes depuis plusieurs années des crimes graves et le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme est prêt pour mener un plaidoyer pour la mise en place d'une chambre mixte. Déclaration du directeur de cette institution que vous suivrez dans l'invité de ce dimanche.
Magazine des Nations Unies, actualité de la semaine.
Bonjour à tous et bon dimanche chez vous. Nous le disions dans le sommaire, la mission onusienne en RDC tient toujours à plus d'inclusivité dans l'application de l'accord du 31 décembre 2016 et donc le représentant spécial du secrétaire général, Maman Sambo Sidikou, devrait continuer ses bons offices en vue de répondre aussi à la mission lui confiée par le Conseil de sécurité dans la résolution 2348. C'est en tout cas ce qu'a affirmé mercredi dernier Charles-Antoine Bambara, porte-parole de la MONUSCO, et c'était au cours de la conférence de presse hebdomadaire des Nations Unies. Suivez plutôt les propos du porte-parole recueillis par Honoré Missinga Kalala.
Nous l'avons dit la semaine dernière et nous le répétons encore cette semaine, nous voulons voir beaucoup plus d'inclusivité dans la mise en œuvre de l'accord de la Saint-Sylvestre. Cela fait partie d'ailleurs de la résolution 2348 qui nous demande, nous, de soutenir la mise en œuvre de cet accord du 31 décembre et c'est ce que nous allons faire. Et je l'ai déjà dit comme je l'ai dit la semaine dernière, les bons offices du représentant spécial, ça va continuer jusqu'à la fin de la semaine et on verra ce que l'on pourra dire. Donc nous n'avons pas de commentaires particuliers à faire par rapport, bien sûr, à la liste des nominations au sein du gouvernement, mais je rappelle que pour la MONUSCO, pour les Nations Unies, l'inclusivité est de mise et importante. C'est ce que nous demande la résolution 2348.
En actualité, retenez également que la situation humanitaire en République démocratique du Congo se dégrade davantage avec près de 4 millions de déplacés déjà, ce qui justifie le plaidoyer mené cette semaine dans les capitales européennes par le bureau OCHA en RDC. Les détails avec vous, Honoré Missinga.
C'est du 8 au 12 mai courant que le chef de bureau OCHA en RDC a effectué cette mission de plaidoyer en Europe. Objectif, attirer l'attention des donateurs sur les conséquences désastreuses de la violence croissante en cours depuis août 2016 au Kasaï central avec la crise de la milice Kamuina-Nsapu. Et ces violences affectent aujourd'hui quatre autres provinces limitrophes, le Kasaï oriental, l'Omami et Sankuru. Conséquence, les besoins humanitaires dans ces contrées auraient quadruplé selon le bureau OCHA avec 1,5 million de personnes nouvellement déplacées, ce qui porte à ce jour le nombre de déplacés dans cette région à 3,7 millions et classe ainsi la RDC premier pays d'Afrique par le nombre de ses déplacés internes. C'est donc pour sauver le maximum de vies parmi ces personnes que le bureau OCHA RDC a effectué cette mission européenne.
Magazine des Nations Unies, décryptage.
Le 4 mai dernier, la MONUSCO a lancé à Kinshasa la campagne de sensibilisation à la compréhension de la résolution 2348 et de l'accord de la Saint-Sylvestre. Alex Essomet, responsable de l'unité Outreach, fait le bilan du début de cette campagne et en explique surtout la motivation dans cet entretien avec Honoré Missinga Kalala.
Alex Essomet, bonjour.
Bonjour.
La MONUSCO a lancé le 4 mai dernier une campagne de sensibilisation à la compréhension de la résolution 2348 et l'accord du centre de César. Quelle est la motivation de cette campagne?
La motivation du point de vue de la MONUSCO est la campagne de sensibilisation pour porter à la connaissance du grand public congolais ce que représente la résolution 2348 du Conseil de sécurité. Et ceci est une initiative de la division de l'information publique par son unité qui s'appelle très communément à l'anglais l'unité Outreach, qui veut dire en d'autres termes en français l'unité de la communication sociale. Il s'agit donc d'un exercice de communication dans le cadre des activités annuelles que nous faisons et la résolution s'inscrit dans cet ordre-là parce que la résolution arrive juste au moment où nous renouvelons la plupart de nos activités annuelles qui vont du mois de mars au mois d'avril de l'année prochaine. C'est pour donc accompagner aussi le travail des bons offices que fait le représentant spécial auprès des différentes parties prenantes de la classe politique congolaise pour appuyer ce message que les Nations Unies sont ici pour accompagner, les Nations Unies sont ici pour soutenir l'action de ce grand pays qu'est la RDC. Et comme vous le savez, la résolution 2348 du Conseil de sécurité appuie la mise en œuvre de l'accord du 31 décembre 2016, communément appelé l'accord de la Saint-Céleste, qui a eu lieu au centre interdiocésain de Kinshasa. Il était donc essentiel, ou il est essentiel pour la MONUSCO, de continuer à mettre en avant ce beau travail de cet accord, et également montrer la signification et la cohérence qui existe avec la résolution 2348.
Alors, vous avez démarré cette campagne à Kinshasa avec une conférence publique à laquelle ont assisté professeurs d'université, étudiants et membres des organisations de la jeunesse et de la société civile. Quelles leçons avez-vous tirées de ce premier coup d'envoi?
C'est une leçon positive au regard de l'engouement que cela a suscité auprès du grand public. Et je dois vous dire, moi qui étais le modérateur avec l'écrivain Didier Moumengi, nous avons compris qu'il y avait un grand intérêt auprès du grand public. Nous avons reçu à peu près 300 personnes qui étaient dans la salle, mais au-delà des personnes qui étaient là, c'est la presse nationale qui s'était saisie, n'est-ce pas, de la discussion autour de la résolution, au regard de l'importance même de la résolution pour la République démocratique du Congo, et au regard surtout de l'importance de cette résolution pour le grand public congolais. Bien sûr que la communauté internationale, c'est un geste d'appui, n'est-ce pas, aux différentes actions que mène la République pour pouvoir mettre en place des perspectives démocratiques d'avenir.
Vous avez ciblé le grand public, mais pourquoi vous n'avez pas associé les opérateurs politiques?
C'est une série de campagnes de sensibilisation, et donc nous procédons par groupe ciblé. Pour l'instant, c'est le public des étudiants et des jeunes, constitué des professeurs d'université. La prochaine étape, c'est des partis politiques, tous les partis politiques réunis, que ce soit la majorité ou de l'opposition ou d'autres partis, ils sont plus ou moins connus. Il s'agit de mettre tout le monde ensemble pour que les gens comprennent ce que c'est la résolution et ce que les gens retiennent, quelle est la cohérence de la résolution avec l'accord du 31 décembre dernier.
Parmi les orateurs de cette conférence, il y avait le directeur du Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme. Quel rapport y a-t-il ou y aurait-il entre la résolution 2348, l'accord de la Saint-Sylvestre ainsi que les droits de l'homme?
Mais les grands points de la résolution, si vous la lisez, reviennent énormément sur les violations des droits de l'homme et la nécessité pour la MONUSCO de continuer à surveiller, à rapporter, à sensibiliser les autorités locales, à sensibiliser le grand public sur la nécessité d'éviter les violations des droits de l'homme. Et donc c'est une grande partie du travail de la protection des populations civiles que la MONUSCO mène sur le terrain, en appui aussi au travail des militaires et des autres civils, les autres divisions de la MONUSCO. Tout ça concourt, n'est-ce pas, à continuer à protéger la population civile et à accompagner le pays vers des destinées démocratiques meilleures.
Au-delà de l'engouement, comme vous l'avez dit, est-ce que vous avez l'impression qu'à l'issue de cette conférence, l'auditoire a eu une nouvelle compréhension de la résolution 2348 et de l'accord de la Saint-Sylvestre?
Absolument, des rapports des médias locaux, du bouche à l'oreille, des appels reçus, l'enthousiasme suscité dans la salle, ce qui s'est dit au quartier en rapport avec cela, tout ça ce sont des éléments qui nous permettent de dire que cela a été très bien reçu et qu'il va falloir que la MONUSCO continue sur cette lancée pour pouvoir sensibiliser la population congolaise sur, n'est-ce pas, ce qui les préoccupe, ce qui les concerne et ce qui représente l'enjeu de leur devenir.
Oui, la MONUSCO va continuer sur cette lancée. Donc la campagne va couvrir toutes les provinces du pays. Après Kinshasa, la prochaine étape, c'est quand et où?
Écoutez, nous procédons de la manière suivante. Nous avons démarré à Kinshasa et tous nos bureaux à l'intérieur du pays ont été instruits pour pouvoir continuer cette démarche au niveau de leur localité. Donc vous verrez dans les tout prochains jours, si cela n'a pas déjà été fait, que toutes les provinces vont commencer au même moment le même type de campagne sur la résolution 2348. Donc ce n'est pas un exercice simplement de Kinshasa, c'est un exercice national. Il s'agit d'atteindre le maximum de personnes possibles pour que tout le monde s'approprie de la résolution 2348, parce que en fait, c'est de ça qu'il s'agit. Comment donner l'opportunité aux populations congolaises de base de s'approprier pleinement la résolution 2348.
Donc, il y aura d'autres stratégies de communication.
Toutes les stratégies, toutes les batteries sont mises en marche pour pouvoir promouvoir cette résolution qui, je le pense, n'est-ce pas, ou le pense à la communauté internationale, a été envoyé, a été demandé pour pouvoir accompagner le processus démocratique en République démocratique du Congo.
Alex, c'est son merci.
C'est moi qui vous remercie.
Ouvrons cette page des nouvelles, en bref, avec la protection du docteur Denis Mukwege. La MONUSCO continue d'assurer la protection du gynécologue de l'hôpital de Panvi à Bukavu, contrairement à certaines informations parues dans la presse. La MONUSCO a fourni aux médecins, par exemple, une escorte début mai dernier jusqu'à la frontière rwandaise, alors qu'il se rendait à Entebbe en Ouganda. Les patrouilles aux alentours de son hôpital sont également assurées, ainsi que les escortes à l'intérieur de la province du Sud Kivu. À ce propos, la MONUSCO estime que le travail du docteur Denis Mukwege est très important et que par ailleurs, son mandat souligne la nécessité d'assurer la protection effective des personnes sous la menace des violences physiques. Restons dans la province du Sud Kivu où UNPOL, la police de la MONUSCO, a achevé la semaine dernière à Uvira une série de formations à l'intention des éléments de la police nationale congolaise, la PNC. Au total donc, 129 agents de la PNC ont bénéficié de cette formation, donnée 6 semaines en raison d'un module par semaine. Cette formation a porté notamment sur les matières relatives à la police de proximité, aux notions du droit pénal et des procédures judiciaires, aux violences sexuelles, à la circulation routière, ainsi qu'aux renseignements généraux. Ouvrir encore un des prisonniers formés en informatique, en français, swahili et même en anglais, c'est une initiative de la section d'appui à la justice et à l'administration pénitentiaire de la MONUSCO. La première promotion de cette formation particulière organisée à la prison d'Ouvira a donné 15 élèves qui ont satisfait au test de français, 15 autres ont satisfait au test en anglais et 14 au test en swahili. Enfin, volet humanitaire, plus de 16 000 déplacés internes sans aucune assistance dans les territoires de Kapanga. Nous sommes là dans la province du Lualaba. Une information livrée par le Programme Alimentaire Mondial, le PAM. Ces déplacés sont parmi les personnes fuyant les exactions dans les Kasaï.
Magazine des Nations Unies, l'invité.
Les auteurs des graves crimes dont est victime la population congolaise ces dernières années doivent répondre de leurs actes et selon le directeur du bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme, une chambre mixte incluant à la fois une justice nationale et internationale serait un mécanisme juste et efficace à cet effet. José Maria Ranaz répond aux questions d'Honoré Missenga Kalala.
José Maria Ranaz, bonjour.
Bonjour et bonjour à tous les auditeurs de Radio Capi.
Vous étiez l'un des orateurs de la conférence publique marquant le lancement à Kinshasa par la MONUSCO de la campagne de sensibilisation sur la résolution 2348 et l'accord du 31 décembre 2016. La plus grande préoccupation de l'auditoire en réaction à votre message était de savoir pourquoi les crimes graves commis en RDC ne donnaient pas lieu à la mise en place d'un tribunal international du genre de celui d'Arusha pour le Rwanda, par exemple. Vous avez répondu que le Conseil de sécurité n'a oublié aucun crime grave commis en RDC. Est-ce que vous pouvez expliciter vos propos?
Oui, c'est clair que l'RDC, les citoyens de l'RDC, ont souffri les crimes graves depuis l'époque. Il y a besoin de justice, il y a un besoin urgent de mettre les responsables de ces crimes, de les traduire en justice. À ce moment, il y a les institutions nationales du système judiciaire qui s'impliquent dans les efforts de la lutte contre l'impunité, mais on espère les résultats, les bilans concrets pour traduire en justice les responsables de ces crimes et ces violations graves des droits humains. En tout cas, c'est que la résolution du Conseil de sécurité a constaté, c'est une préoccupation pour la question de l'impunité et a remarqué l'urgence et le besoin d'avoir un système de justice en place sans retard.
Qu'est-ce qui prouve dans la résolution 2348 que le Conseil de sécurité s'intéresse vraiment à cette situation ?
Dans l'introduction de la résolution du Conseil de sécurité, le Conseil a souligné les préoccupations graves sur la question de l'impunité, sur la question des violations graves, des violations des droits humains. À la prochaine section, a souligné les obligations du gouvernement de traduire en justice le responsable des violations graves des droits humains, et ça c'est l'obligation des autorités. Le Conseil de sécurité, qui a des moyens limités, mais d'établir la responsabilité personnelle, aussi parle de la possibilité et la disponibilité des conseils de sécurité de discuter, de considérer la question des sanctions ciblées contre les responsables des violations des droits humains. Et c'est intéressant aussi que les conseils de sécurité fassent référence aux questions de la violence électorale, la violence politique des élections de 2011, mais aussi de janvier 2015, septembre et décembre 2016.
Alors, par rapport à la préoccupation de la majorité des Congolais, comme vous l'avez senti lors de cette conférence à propos d'une mise en place un jour d'un tribunal international, quelle est l'action que mène actuellement votre organisme, le Bureau conjoint?
Oui, le Bureau conjoint a été impliqué dans les discussions avec les autorités congolaises pour trouver un mécanisme efficace de responsabilité pénale individuelle, de justice. Et à notre avis, les chambres mixtes, ce serait le mécanisme le plus approprié pour garantir les processus juste et approprié, mais aussi pour traduire en justice les responsables pour les violations graves des droits humains à la RDC, qui en tout cas, à ce moment, nous constatons qu'il n'y en a pas les progrès adéquats.
Donc, vous avez quand même un travail de plaidoyer que vous faites par rapport à cela.
Oui, notre bureau a été impliqué depuis l'époque. Nous avons préparé la documentation sur le rapport MAPIN qui a documenté les violations graves des droits humains contre la population de la RDC. Et nous sommes prêts à donner l'appui, à faire les plaidoyers comme on a fait avec les autorités et les bailleurs de fonds pour avoir un mécanisme efficace de justice internationale ou de gouvernement de manière mixte pour les violations graves des droits humains.
Si José et Maria Ranaz, vous avez également dit lors de votre message que si la crispation politique ne sera pas démise, notamment avec la liberté d'expression et de manifestation publique, les élections ne seront pas crédibles. Y a-t-il aussi un travail de plaidoyer au niveau du Bureau conjoint par rapport à la décrispation politique?
Bien sûr, les mesures de décrispation accordées de l'accord de Saint-Sylvestre, c'est une partie très importante de cet accord. Et maintenant, donc, nous avons un nouveau gouvernement, nous espérons les progrès dans l'application de ces mesures de décrispation. Comme les trois experts indépendants des Nations Unies ont dit au mois d'octobre, la prohibition généralisée des manifestations dans tous les pays, c'est disproportionné. Injustifié, on ne peut pas préparer un processus électoral crédible sans une manifestation de liberté pacifique des manifestations pour tout. Elle semble la même chose pour la question des menaces contre les journalistes, membres de la société civile ou membres de l'opposition. Nous espérons que la nomination du nouveau gouvernement va ouvrir aussi une opportunité pour ouvrir l'espace politique et commencer à créer les conditions pour les processus électoraux crédibles.
José Maria Ranaz, merci.
Merci à vous.
Malgré l'insécurité entretenue par des présumés miliciens Kamuina Nsapu, les épreuves hors session de l'examen d'État 2017 ont pu se tenir au Kasaï central grâce à la contribution de la MONUSCO, dont l'appui a été sollicité notamment pour la livraison des kits d'examen. Le directeur de l'information publique et porte-parole de la mission, Charles-Antoine Bambara, l'a indiqué mercredi dernier à la conférence de presse hebdomadaire des Nations Unies.
La MONUSCO a donc acheminé le 29 avril plus de 250 tonnes de kits d'examen d'État de Kananga à Luisa, situé à 180 km de Kananga, pour les distribuer dans la ville et par la suite dans plusieurs centres au-delà de Luisa. Le 2 mai, les examens ont été lancés à travers la province en dépit des troubles causés par cette milice. Selon les inspecteurs des écoles primaires, secondaires et professionnelles, seulement 15 sur les 72 centres d'examen ont rapporté des incidents et n'ont pas pu donc organiser ces examens.
Magazine des Nations Unies, de Sion aux Nations Unies.
Une question posée à partir de Goma à Florence Marchal, coordonnatrice du groupe de communication des Nations Unies en RDC. La question portait sur un projet de l'UNICEF sur l'enregistrement des enfants à l'état civil. Suivez tour à tour la question et la réponse.
Merci beaucoup, je suis Guylaine Chimeshula de la Radio Maria. Ma question va droit chez Florence Marchal. Si nous pouvons avoir quelques détails sur le projet lancé officiellement, c'était hier mardi, ici à Goma par l'UNICEF concernant l'enregistrement des enfants de 0 à 17 ans pour qu'ils aient leur acte de naissance. Donc, coût global, durée du projet et les conditions. Merci.
Oui, merci. Tous les détails concernant ce projet vous seront communiqués ultérieurement, mais il est vrai que l'UNICEF ne cesse de faire un plaidoyer pour l'enregistrement des enfants dès la naissance, un enregistrement qui est nécessaire pour avoir une existence légale, pour avoir une identité. Donc c'est dans le cadre de ce plaidoyer et de ces activités que ce projet a été lancé à Goma et dont toutes les informations vous seront communiquées le plus rapidement possible.
Magazine des Nations Unies, Portrait du jour.
Bonjour, je m'appelle Jacques David, je suis officier de communication pour le PAM à Goma. Alors j'ai étudié les sciences politiques et j'ai fait une formation complémentaire en production et animation radio, célibataire. Avant le PAM, j'ai travaillé dans l'humanitaire pendant plusieurs années et j'ai aussi travaillé en radio par la suite en Belgique et également à Kinshasa. Au PAM, je suis arrivé en septembre 2014. Alors, l'emploi journalier, c'est tout d'abord en tant que responsable officier à la communication. Il faut aller recueillir toutes sortes d'informations dans les différents médias tout d'abord, notamment Okapi, les autres médias nationaux, les médias internationaux, les réseaux sociaux, et puis aussi les différentes personnes avec qui je peux être en contact au niveau du Nord Kivu et qui nous ramènent aussi différentes informations. Donc à partir de ça, on a un petit peu le top de la journée au niveau média. Il y a tout ce qui est aussi les informations qui nous proviennent des autres agences des Nations Unies, au niveau plus information humanitaire, je dirais. Cette information, tant au niveau média qu'au niveau humanitaire, il faut la traiter, notamment pour tout ce qui est reporting. Une partie de mon travail consiste à faire du reporting également. Et puis, on fait une évaluation sur le type d'information par rapport à laquelle il faudrait éventuellement écrire, communiquer avec un communiqué de presse, avec une conférence de presse, donc ça se déroule en gros un petit peu comme ça. Ah, mon temps libre. Eh bien, à Goma, on a la chance d'être juste au bord de ce magnifique lac Kivu, donc j'apprécie énormément de pouvoir y plonger une petite tête le plus souvent possible. Parfois tous les jours je vais nager, ou parfois une fois par semaine, ça dépend un peu de la météo. Il pleut beaucoup ces temps-ci, donc c'est moins fréquent. Je vais faire du sport aussi, du jogging. Il y a un hôtel là tout au bout de la ville qui offre un parc où c'est très agréable d'aller faire du jogging. Et puis je prends quelques cours de percussion aussi. Ah, ça c'est une grande question. Moi je suis un grand amateur de musique congolaise en fait. Il y a un patrimoine musical qui est extrêmement riche, qui a commencé il y a bien longtemps. Moi j'aime beaucoup Zaïko Linga Linga par exemple. Dans les stars les plus récentes, on a aussi beaucoup de talent, des très bons chanteurs. Je pense à Ferregola, que j'ai eu l'occasion de voir une autre fois au Hall de la Gombe. Je pense à Fali Poupa évidemment aussi, et tous les autres en fait. Le pays est rempli de talent. On sent qu'il y a une tradition musicale très forte. Il y a aussi certains artistes qui essayent de faire une musique un petit peu différente également. Je pense à Jupiter et International Oquest, que j'aime beaucoup. Je pense au groupe aussi Konono numéro 1, qui fait une musique vraiment particulière aussi. Astaf Benda Bilili, que j'aime beaucoup également. Bangwana Star et tout cela, quoi. Donc il y a un vivier, il y a une richesse incroyable. Alors le sport, je suis un petit peu moins calé en sport, mais ce qui m'a frappé, c'était lorsque donc la RDC a remporté la Coupe d'Afrique des Nations, là, j'étais à Goma, on avait voulu absolument assister aux différents matchs, et évidemment au match de la finale, et j'étais émerveillé de voir toute l'ambiance et la joie qui explosait dans les rues de Goma, et de voir toute la population qui était vraiment en liesse, et pour ça, évidemment, on peut que féliciter et louer les exploits sportifs des Léopards. Alors moi, ce que j'aime le plus, comme j'ai la chance de voyager un tout petit peu, j'ai beaucoup apprécié ce qu'on a pu manger lors de nos quelques jours à Mbandaka. Il y avait du poisson un peu bouilli comme ça, qui était... Voilà, le liboké, exactement. Ça, c'est fantastique. À Goma, on a un peu plus du poisson frit, qui est bon aussi. Bon, on a le lac aussi juste à côté, donc ça aide pour le poisson de bonne qualité. Mais je pense que ce que je préfère, c'est le poulet à l'arachide. Je sais pas si c'est quoi, c'est de Kinshasa. Ça, ou c'est de... Ah, c'est ça, moi j'aime beaucoup. J'ai toujours l'idée de mêler mon engagement humanitaire auquel je tiens beaucoup à ma passion pour les médias et pour la radio en particulier. Je pense que, en particulier en Afrique, la radio est vraiment un média qui touche énormément de monde, qui est très suivi et qui a aussi une sorte de relation de proximité très particulière avec les auditeurs. Et il y a moyen de faire beaucoup, beaucoup de choses avec ça. Donc, d'une façon ou d'une autre, je souhaiterais que dans mon avenir professionnel je puisse mêler cet engagement humanitaire et la passion pour la radio. Et les gens avec qui je travaille, je sais, c'est toujours des passionnés dans la radio et c'est un grand plaisir. Bonjour à tous les auditeurs de Radio Okapi, stay tuned on Okapi, the one and only.
Le magazine des Nations Unies. Tout sur les faits saillants des activités des agences du système des Nations Unies en RDC. Chaque dimanche, de 10h à 10h30, heure de Kinshasa, sur Radio Okapi.
Retenez quelques rendez-vous du calendrier des Nations Unies pour la semaine qui commence. Le 15 mai, c'est déjà ce lundi, c'est la Journée internationale des familles. Le 17 mai, c'est la Journée mondiale des télécommunications. Le 21 mai, donc dimanche prochain, c'est la Journée mondiale de la diversité culturelle pour le dialogue et le développement. Messieurs, c'est déjà la fin de ce magazine des Nations Unies qui a été supervisé par Martin Sebujangwe. Honoré Missengia Kalala était à la coordination, au reportage et à la réalisation. Paul Badenyama, la mise en onde. Tina Salama, la présentation. Merci et à très bientôt sur Radio Okapi. Ciao.